Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, les Grandes Gueules.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas une journée sans que dans la presse locale, la presse quotidienne, via les réseaux sociaux, on trouve des faits marquants qui sont synonymes de ce qui parasite aujourd'hui, ce qui pourrit notre vie quotidienne, ce qui pourrit notre société. Et ce sont les points de deal au quotidien. Et là, on est à Nîmes, avec la médiathèque qui est obligée de fermer parce que les dealers sont installés autour et même sur le toit. Les autorités alertent, ne cessent d'alerter. Écoutez ce qui se passe à Nîmes.
Il y a eu énormément d'alertes qui ont été écrites, qui n'ont pas entraîné de réponse. En fait, ce droit de retrait, ils l'ont un peu exercé comme la dernière façon de s'exprimer.
Ils n'arrivaient plus à supporter la pression exercée à l'extérieur pour arriver travailler le matin, à passer des checkpoints avec des fouilles, des personnes des fois cagoulées, armées. Tout cela faisait qu'ils arrivaient au travail avec une boule au ventre.
Ça devient un territoire qui leur appartient. On tente de s'approprier ce territoire-là et c'est pour cette raison que les habitants ne sont pas chez eux. C'est eux-mêmes qui sont contrôlés. Et si vous êtes un consommateur, eh bien vous serez bien sûr reçu à bras ouverts pour repartir aussitôt avec votre produit.
Voilà, vous avez entendu les responsables de la mairie, associatif, un policier à Nîmes, la médiathèque Marc Bernard a dû fermer.
C'est le quartier de Pisevin, c'est un quartier sensible de Nîmes, dans la périphérie de la ville, où il y a beaucoup de violences liées au trafic de drogue, et on voit que les 18 agents du centre culturel de la médiathèque, en fait, étaient victimes de ces dealers, c'est-à-dire que pour aller bosser, il fallait montrer souvent les papiers d'identité, il y avait même des palpations en pleine rue, pour accéder donc à leur poste de travail, parce que l'endroit est investi par les dealers. C'est pas pour se cultiver que les dealers sont venus à la médiathèque, malheureusement, mais c'est parce que c'est pour gérer leur trafic. Alors tout le monde est au courant de cette histoire. Le maire de la commune, Jean-Paul Fournier, les forces de l'ordre, le préfet, et visiblement, on ne peut pas empêcher ce qui se passe. C'est ça qui est assez incompréhensible, même si du côté de la justice, on explique que les condamnations pénales pour trafic de drogue ne cessent de progresser. Il y a même une hausse assez importante depuis un an. Donc, le préfet du Gard lui-même dit que on va intensifier la présence de la police nationale avec bien sûr la police municipale pour essayer quand même d'aller vers la réouverture prochaine de la médiathèque. C'est l'enjeu du moment. Est-ce que vous comprenez cette situation?
32-16 pour en parler avec les G et Johnny.
Non, ça c'est juste incompréhensible et inadmissible et insupportable. Mais je pense qu'on prend toujours le problème à l'envers. En France, il y a un truc qui fonctionne dans le commerce, c'est l'offre et la demande. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Moi, je connais pas un industriel qui a lancé un produit sur le marché s'il ne se vend pas et qui continue à le fabriquer. Donc, il y a un moment, il faut que tout le monde se prenne en charge.
Les consommateurs.
Il y a que les consommateurs. Il serait peut-être grand temps de penser que le petit joint festif du week-end, même si c'est que le petit joint festif du week-end, ça pourrit la vie des quotidiens.
Il vient de quelque part.
Ça pourrit la vie des gens au quotidien. Donc, il y a un moment, je veux dire, si demain, il n'y a plus de demande, il n'y a plus d'offre. Ce marché, il s'arrête. Donc voilà, il faut arrêter tout le temps. Oui, que fait la police? La police, elle fait ce qu'elle peut, je pense, parce qu'on a quand même des lois qui régissent notre pays qui sont quand même relativement strictes et le policier fait pas n'importe quoi. Donc ça veut dire que ses moyens sont très limités. Les trois quarts du temps, ils arrêtent les gens. Le juge les fout dehors dès le lendemain matin parce que ça fait 15 fois qu'il les voit, il sait plus quoi en faire.
Là, c'est pas vrai, puisque depuis un an, on a 138 jugements avec des peines qui sont allées jusqu'à 8 ans de prison.
138.
La justice,
alors, 138, mais est-ce que c'est appliqué? Parce que là, c'est
138 jugements sur 15 000 points de deal par jour. Enfin, il y a un moment, je veux dire, c'est de la roupie. Parce qu'on en prend un de temps en temps, c'est pas ce qui va faire avancer la machine.
Alors on voit quand même que c'est vraiment un endroit que les dealers veulent gérer. Et par exemple, il y a un journaliste de M6 qui s'est fait quand même assez violemment agressé parce qu'il voulait tourner sur place et il a été frappé debout et au sol par deux hommes qui ont ensuite pris la fuite.
Bah, en fait, la question du deal dans les cités, elle date. Hein. Elle date pas d'hier, ça date depuis toujours. C'est la question de l'économie parallèle qui est tolérée, en fait. Parce que, évidemment, que si on voulait que dans ces quartiers, on prend un exemple, un quartier de 2-3 000 habitants où vous avez 100 dealers, si on ramène au pourcentage, on n'a pas la population qui deal. C'est une population qui, elle aussi, subit l'impossibilité de passer dans leur appartement par les cages d'escalier. C'est les squats, c'est le recrutement de jeunes mineurs pour faire les choufs, etc., etc. Donc, les jeunes ont même des sigles. Ils disent « Est-ce que TTP, donc temps plein, chouf temps plein ?» Enfin, ils ont créé une véritable économie. Et c'est une économie sociale que l'État connaît. Et il sait que si on retire cette économie vie sociale, avec le taux de pauvreté qu'il y a dans ces quartiers, forcément, on n'a pas derrière l'armada nécessaire pour pouvoir répondre à toutes les problématiques. Donc, oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que l'économie parallèle, elle date. Non, mais si on veut arrêter le problème de la drogue, c'est 100 personnes dans un quartier. Il y a 3000 personnes. Il y a 3000 habitants, 2000 habitants, 1500 habitants, t'as 100 dealers.
C'est pas que l'économie parallèle, je pense que par rapport à ce qui pourrait exister dans le monde du travail, les mecs qui ont pris l'habitude de bosser.
Mais évidemment, c'est une économie parallèle.
Oui, mais d'accord, mais c'est même pas qu'une histoire d'économie parallèle qui fait vivre un quartier. C'est l'histoire que quand t'as commencé à bosser, je veux dire, on te dit t'as 1000 balles par jour et que demain faut que tu retournes bosser pour 120 balles par jour, bah, tu dis non, je vais continuer à faire
Mais c'est valable dans tous les univers. C'est valable dans les univers des affaires. C'est valable dans les univers. Il y a des gens en corruption en politique qui gagnent 7-8 000 balles par mois et ils arrivent encore à détourner du pognon. C'est l'appât du gain. Donc, je vois pas pourquoi dans les quartiers populaires, ils seraient pas aussi, eux, attirés par l'appât du gain. Le problème de la drogue, c'est un, oui, il faut continuer à sévir, à punir et à faire en sorte que les gens soient effectuent leur peine, et il faut débarrasser tous ces quartiers de ces gens-là qui pourrissent la vie et qui entraînent des mineurs, ça c'est sûr, mais il faut que l'État arrête avec la complaisance de l'idée que l'économie parallèle répond à une question sociale dont pour eux, ils n'ont pas la réponse. C'est ça, parce que ça date depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui.
Moi je te dis, la seule réponse possible, c'est ce que je dis, c'est que la consommation s'arrête et tout s'arrête tout
seul. Oui, non, mais là,
Est-ce que ça
consomme partout, ça.
Ah ben d'accord, mais c'est facile, c'est la faute de la police, c'est la faute de l'État, c'est la faute de la mairie, c'est
la faute. La consommation, faut la légaliser et ça.
Voilà,
ça,
aussi.
Tout le monde fait marche arrière.
Un peu rapide.
Ouais. Thomas Porcher.
Ouais, en tous les cas, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que le deal est de plus en plus visible.
C'est ça.
Ça a toujours existé, mais avant, il n'était pas visible de cette façon-là. Maintenant, il est vraiment visible.
Il affiche les tarifs,
même dans Paris.
Oui, oui.
Paris, vous le voyez dans certaines rues comme ça où il y a beaucoup de monde, et là, vous voyez un point de deal qui est très visible. Donc, moi, je pense que c'est un problème vraiment multifactoriel. C'est-à-dire que, effectivement, il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été faites sur la police. Par exemple, on a retiré la police de proximité, qui savait ce qui se passait dans les quartiers, qui connaissait tout le monde, qui pouvait avertir des jeunes qui commençaient à déraper. Et maintenant, on ne sait plus. Donc, les quartiers sont devenus des quartiers où finalement les gens vivent entre eux, comme ça, où il n'y a plus de présence de l'État et où tout s'organise. Et après coup, l'État veut intervenir. Donc là, il y a ça. Il y a aussi un moment, et là tu l'as bien dit Zora, t'as tous les taux de pauvreté qui ont augmenté partout, et il faut quand même se poser la question, c'est comment ça se fait qu'à un moment l'économie informelle attire comme ça un certain nombre de jeunes, de plus en plus jeunes, et là c'est aussi un vrai problème structurel. Et puis après il y a comme tu dis l'offre et la demande, quoi, c'est-à-dire que
consomme partout.
Ça consomme partout, donc il faut aussi responsabiliser le consommateur. Mais là le constat c'est que à partir du moment où tu déplaces des services publics comme une médiathèque. On a vu l'autre fois, moi j'avais vu un reportage sur, je crois que c'était Envoyé spécial, autour d'une école maternelle dans le sud de la France, des deals où l'école maternelle appelait l'État et grosso modo l'État dit on sait pas quoi faire. Voilà, là il y a un
donc
vrai problème.
Donc on ferme le service public. Bah,
là il y a un problème.
Là il y a un recul effectivement de l'État et là c'est très problématique.
Bah tiens, on va prendre un témoignage tout de suite parce que dans ces cas-là, on peut compter sur ceux qui nous écoutent, qui écoutent les GG et qui sont sur place, qui voient ce qui se passe. C'est Sébastien qui est taxi du côté de Bellegarde dans le Gard. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Donc ça, bonjour, là, ce qu'on dit là sur ce qui se passe du côté de ce quartier Pisevin là, Anime, vous le voyez vous?
Ben moi j'y passe à peu près tous les jours puisque j'ai des clients à prendre en charge là-bas. Donc sachant que moi je fais pas mal de transport médical et moi je veux dire à n'importe quelle heure de la journée, que ce soit à midi, en pleine journée quoi, je les vois. Donc je me dis c'est pas possible que la police et que les forces de l'ordre ne voient pas ces gens-là, parce que moi je sais ce qu'ils font. Donc à partir de là, il y a pas de souci. Et c'est vrai que même pour nous taxis, c'est des fois compliqué, puisque la dernière fois je me suis fait dégager à 5h de l'après-midi parce que je faisais le plein et que je dérangeais un groupe qui dealait sur la station service.
Et comment vous faites dégager Sébastien? Je comprends pas.
En fait, j'étais dans la voiture, j'étais au téléphone avec mon patron et voilà, ils étaient là en train de dealer, donc en gros, ils m'ont demandé de raccrocher, de dégager, parce que j'ai emmerdé, quoi. Voilà.
Ah ouais. Mais alors, ce qui veut dire que là où vous êtes, là, quand vous passez sur ce coin de Pisevin qu'on comprend bien, ça se fait comme ça en plein jour, au vu et au su de tout le monde.
Il y a aucun. Enfin, moi, je vois la médiathèque. En fait, elle est en contrebas sur une place, quoi. Et nous, la route est un petit peu en hauteur et on voit les jeunes qui sont assis sur les chaises, on dirait des hérons sur le pont, quoi, en train de faire les chauffes, quoi, tout simplement. Donc, on sait très bien ce qu'ils font, quoi.
C'est des mineurs.
faut après je ouais, mineur, majeur, il y a de tout. Mais après, j'écoutais Johnny qui disait le problème, c'est pas la police, ils font ce qu'ils veulent, parce qu'effectivement les gamins, c'est des gamins de 12-13 ans qui de toute façon sont relâchés 24 heures après le problème c'est qu'il y a rien qui se fait sur ces quartiers-là.
Mais le problème c'est que Sébastien,
50 000 balles par jour.
Mais oui, mais le problème, Sébastien, c'est que quand justement tous ces jeunes là qui vendent, quand ils se font arrêter, qu'ils ont quelques grammes sur eux, un petit peu, parce que justement ils sont les distributeurs de mecs qu'on voit pas sur le terrain, hein, parce qu'en fait on voit que les jeunes et puis les mômes qui vendent. Donc les mômes, tu les arrêtes, la police fait ce qu'elle peut, elle les arrête, elle les emmène au commissariat, ils vont en garde à vue, ils avaient 100 grammes de shit sur eux ou n'importe quoi, ils sont relâchés. Donc en fait c'est le problème, c'est clair que il faut justement s'attaquer à ceux qui fournissent, ou en tout cas qui organisent la distribution avec des mômes qui sont payés pour ça. Et tu commences par ça, tu disais faut enlever ceux qui consomment, mais tu commences par enlever ceux qui distribuent. C'est-à-dire si tu frappes fort,
mais bien sûr,
ça ne sert à rien parce que t'en enlèves un, il en pousse deux. Je vais dire un truc, c'est
fait. Ça dépend, parce que
si un marché, tu ne supprimeras pas un produit.
Si t'as 17 ans et si tu sais que tu vas manger cher autant que celui qui distribue,
tu mets au trou 6 mois celui qui vient acheter une barrette.
C'est quoi, consommateur, c'est déjà un délit.
Oui, déjà.
C'est un délit, c'est. Tu payes quoi ?
200 balles.
Voilà. C'est-à-dire que bientôt, moi, je fais un excès de vitesse, on me saisit ma bagnole. Par contre, tu peux acheter de la drogue comme tu veux, tu vas prendre 50 balles de purine, quoi. Donc, c'est quand même un peu n'importe quoi. Et en plus, quand on dit, tu les emmènes au commissariat, quand tu vois ce quartier qui représente, je crois, 12-15 000 personnes, il n'y a pas de commissariat. Donc, il y a un moment, tu te dis, c'est quand même pas possible. Dans un village de campagne où il y a 2 000 habitants, il y a une gendarmerie. Dans un village où tu as 15 000, où il y a des dealers de partout, il n'y a pas de commissariat.
Bah, voilà.
Donc, il y a un moment, peut-être, faut se poser les bonnes questions aussi.
Et en plus, il n'y a plus de police de proximité.
Sébastien qui vient faire en tant que taxi le plein de sa bagnole, qui est toujours avec nous, Sébastien, donc c'est son gagne-pain. Il est en train de faire le plein, on dit garçon, tu dégages, là t'es chez nous. Je veux dire, c'est la tranquillité des habitants à laquelle il faut trouver une solution. Allez-y, Sébastien.
Juste une chose, c'est que quand alors c'est pour le plein, mais des fois dans certaines barres d'immeubles, quand on rentre chercher des patients, des gens malades. Être les parents de ces gamins-là, quoi. On est contrôlé.
Oui, mais moi je pense que les Français ne comprennent
chercher,
pas.
Qui c'est que tu viens voir, qui c'est que machin. Une fois, on a été obligé d'appeler la patiente pour qu'elle le dise aux jeunes de nous laisser passer pour aller la chercher, quoi.
Oui, donc c'est eux qui font la loi. Mais les gens ne comprennent pas, c'est que comme le disait Thomas, maintenant, ils se cachent plus.
Non.
Ils ont pignon sur rue. Et les gens ne comprennent pas pourquoi on ne les arrête pas. C'est pas compliqué. Sur le principe, sur le papier, s'ils sont là, si on les identifie, s'ils sont obligés, ils font des palpations sur le personnel de la médiathèque qui arrive le matin. Et ce qui est incompréhensible pour les Français, c'est que finalement, il se passe rien.
Ce qui a été expliqué, la justice,
chaque fois, il y a une inversion des valeurs.
Tu vois comment rendu en fonction de la justice en France. Je vais te citer un exemple qui n'a rien avec la drogue. Je connais des gens, je vais dire un truc, qui font du motocross. Ils se font voler dans leur garage deux motocross toutes neuves. Le mec, il a une caméra. Tout est filmé. Donc, on voit les mecs dessus, on voit qui fait ça. Qu'est-ce qu'il fait dès le lendemain? Il met ça sur les réseaux sociaux pour dire comme ça, je vais vite retrouver mes motos. Mais en fin de compte, les flics arrivent chez lui, vous retirez ça tout de suite, vous êtes passible d'une amende de je ne sais plus combien, strictement. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Quand est-ce qu'on va reposer les pieds sur terre en France et de se dire, oui, le mec c'est un voleur, oui, je peux l'afficher, j'en ai rien à foutre, c'est un voleur.
Sébastien, merci de votre témoignage, Sébastien. Bonne journée. Dans un instant, on va aller du côté de la Savoie avec Cédric, qui est un ancien policier et qui veut reparler de ce qu'il a connu. Quand il était justement dans la vie active policière, on disait non, il y a des quartiers, les gars, laissez faire.
Mais on va
pas y aller.
Oui.
Et puis on a Wari qui est commerçant aussi en Seine-Saint-Denis. Et il dit bah oui, les dealers aujourd'hui, malheureusement, ils font la loi. Mais et quelle que soit la ville. Allez, à tout de suite avec les Gigi.
RMC. 9h midi. Les Grandes Gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules à la radio, à la télé, les Grandes Gueules qui vont passer par la Savoie pour continuer de discuter de ces points de deal qui aujourd'hui pourrissent la vie des habitants des quartiers. On voit là encore l'exemple du côté de Nîmes avec cette médiathèque qui est obligée de fermer. Puis on avait Sébastien qui nous racontait qu'en tant que chauffeur de taxi, on l'avait fait dégager parce qu'il faisait son plein et qu'il embêtait les dealers qui étaient sur place. Bonjour Cédric.
Bonjour à vous.
Bonjour. Ancien policier pendant combien de temps, Cédric?
J'ai fait 5 ans, de mes 20 à mes 25 ans à peu près, ouais, c'est ça.
D'accord, alors quel quartier, à quoi vous vous êtes confronté, vous étiez où, dites-moi?
Alors moi j'étais en banlieue lyonnaise.
Ouais.
J'étais en banlieue lyonnaise. Et c'est
pas mal
vrai
non
que...
plus.
Bah, c'est fois, c'était, il y avait du travail, on va dire ça comme ouais. ça. Et c'est vrai que, bon, moi, je suis resté aussi en contact avec des personnes avec qui j'étais en école de police, que j'étais d'ailleurs en école de police à Périgueux. Mmh. Et en fait, on avait tous le même discours, le même retour. Et j'ai encore des collègues qui y sont, moi, j'y suis plus, mais ils y sont encore et rien n'a changé. Parce que là, on parle d'il y a une dizaine d'années, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des endroits dans lesquels on avait la consigne ferme de pas y rentrer, quoi, en fait. Parce que, bon, déjà, on avait un parc de véhicules assez vieillissant. Et puis rentrer avec des impacts de boules de pétanque sur le toit qui tombaient du troisième étage ou des micro-ondes qui volaient des toits des immeubles, etc. Bon, bref, fallait pas abîmer les voitures plus qu'elles ne l'étaient. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Donc, en fait, pour moi, il y a une espèce d'hypocrisie parce que bah, c'est le même problème depuis toujours. Et que les solutions sont pas apportées parce que envoyer des CRS dans une ville et puis prendre le soin de le signaler aux chaînes d'infos en continu pour vraiment que le citoyen lambda le s'en rende compte, c'est une chose. Mais ça reste de la communication parce que en réalité ça se passe même dans les villes moyennes aujourd'hui en France de partout.
Mmh. Surtout que la compagnie de CRS que Darmanin va envoyer dans ce quartier de Pisevin,
il la prend ailleurs.
Il la prend ailleurs. elle va pas rester à Villa.
Elle va rester
là le temps que ça se calme, le temps que les médias effectivement se détournent de cette situation et puis.
Ouais, parce que le maire lui demande une affectation quasi permanente d'une compagnie.
Mais le problème qu'il y a c'est que ça demanderait des moyens qui seraient énormes. Mais après faut savoir ce qu'on veut.
Exactement.
Après, c'est un choix à mon goût politique pour que le policier n'y est pour rien en réalité. Il a des voitures, excusez-moi du terme, je vais pas l'utiliser.
Des voitures de merde.
Vieillissantes, ouais, c'est ce que j'allais dire. Des voitures de merde, du matériel qui tombe en déconfiture. En plus de ça, en sous-effectif, dans des endroits où il faudrait être en sur-effectif. Le policier n'y est pour rien en réalité. Lui, il enfile son uniforme le matin, il a déjà la migraine.
Mais Cédric, j'ai une question à vous poser. Dites-moi. Ce combat contre la drogue. Mmh. Il semble perdu en fait. On a l'impression que c'est un combat sans fin. On dépense beaucoup de moyens quand même, même si on pourra mais on en dépense quand même beaucoup, beaucoup d'énergie. Les policiers se mobilisent et finalement on se rend compte que des points de deal il y en a de plus en plus, même si Darmanin veut les démonter à chaque fois, et que c'est un combat qui semble perdu. Donc est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné réfléchir sur ce combat? Qu'est-ce qu'on fait alors? Soit on continue comme ça, mais dans 15 jours on aura une autre médiathèque, on aura un autre service public.
Mais si tu légalises le shoot par exemple, on va créer une nouvelle drogue qui va arriver et qui sera plus intéressante et moins chère. C'est un jeu sans fin.
Est-ce que c'est pas qu'on a laissé pendant trop de temps la gangrène s'installer? Oui. Et bon, malheureusement, on peut pas retourner en arrière, mais est-ce que pour moi, c'est l'un des constats, c'est qu'on a laissé ça s'installer en fermant un peu les yeux, en ayant un peu peur de d'y rentrer, et puis maintenant, une fois que c'est installé.
Mais Cédric, c'est la question, c'est est-ce qu'on est prêt à payer le prix?
C'est quoi le prix?
C'est-à-dire des violences sans précédent, du démantèlement total sur tout le territoire des pôles de trafic. Le prix à payer, c'est-à-dire que non, mais faut être factuel. Économiquement, c'est un vrai problème. C'est le risque d'émeute. Le gouvernement veut, il peut décider de démanteler l'ensemble des points de deal de France.
On est d'accord.
Ok, il le fait, très bien. Quelle est la réponse? Qu'est-ce qui va se passer derrière?
Donc, si je vous suis, il faut que le mal triomphe sur le bien. En gros, c'est un peu ça.
Oui, c'est un choix politique.
Ce qui
représente l'autorité, c'est-à-dire l'uniforme des personnes qui... Enfin, je veux dire, l'autorité, la France, quoi, vous voyez ce que je veux dire? L'uniforme et tout, on va dire, le côté bien de la chose doit baisser la tête. Rien faire, se taire ou faire semblant de, sous prétexte que les forces du mal, en l'occurrence, c'est-à-dire les dealers, la mauvaise graine et tout ce qui va avec, peut se rebeller et faire des émeutes. En fait, c'est ça.
Cédric, moi, j'ai.
Oui, mais c'est un choix. Faut le décider.
Là où je rejoins ce qu'a dit Cédric, moi, je me souviens dans les années, en 97, je crois que c'était l'Obs, me semble-t-il, il y avait une première page où il y avait marqué les cités où la police ne va plus. Oui. C'était déjà une question qu'on posait en 97.
Le nom droit.
Et en 97. D'ailleurs, il y avait une chanson. Il y avait une chanson. Je crois que c'était de Passy sur un film qui s'appelait Ma cité va craquer. Il disait bienvenue dans les cités où la police ne va plus. Oui. Il y avait une phrase comme ça. Donc c'était un truc qui était connu. Il y avait déjà les cités où la police ne rentrait pas en 97. Moi, il y a deux choses qui m'interpellent. C'est la première chose, c'est je crois pas qu'il y ait une vraie politique de démantelage, une politique de maintien de l'ordre concernant les démantelages de points de deal. Je crois que ça n'existe. Non, mais il y a de la communication.
Il y en a eu.
Je ne sais pas s'il y en a une, s'il y a un mode d'emploi, une application réelle. Je crois pas.
Le ministre intérieur va te dire que oui.
Alors, il va te dire que oui, on va ramener les CRS, comme tu dis, en grande pompe, la télé, puis après, ils repartent et l'économie informelle se reconstitue. Et puis après, même, je veux dire, c'est même dans des pays qui ont été bouffés par les narcotrafiquants, comme par exemple le Mexique,
la Colombie,
même, ils n'ont pas eu la solution.
La Colombie, qui est en train de remonter la pente.
Le Mexique, ils ont mis l'armée dans la rue. Ils ont mis à un moment l'armée dans la rue. Ils ont dit, on va mettre l'armée là, on va taper fort. Et ben en fait sur les années où ils ont mis l'armée, les points de deal ont été multipliés par deux. Donc même ça,
la Colombie qui a réussi et d'ailleurs qui est en train de réouvrir le tourisme. Et eux ils ont pris un autre parti, c'est-à-dire que eux ils ont fait des accords avec les narcotrafiquants, ils ont trouvé des compromis et ça a l'air de tenir, mais la Colombie, en tout cas,
merci à Cédric d'avoir été avec nous.
Tu disais que le diable.
Ouais, mais tiens, alors là, parce que Cédric et Thomas racontaient déjà ce qui se passait dans les années 80. Les amis, je vous conseille de regarder les reportages en ce moment et de lire aussi l'enquête du Monde et de regarder sur TF1 ce qui se passe aux États-Unis avec le fentanyl, qui est une drogue qui défonce pendant une demi-heure. Elle coûte $3.
C'est la drogue des zombies.
$3. Ouais. Encore moins cher que le crack. C'est la drogue des zombies. San Francisco,
complètement.
C'est dément.
Ils ne ressentent plus rien.
Ils sont à entre 8000 et 10 000 personnes défoncées quotidiennement qui traînent sur les trottoirs et au milieu de la rue et qu'on n'arrive pas à récupérer. Et ça,
ça va arriver chez nous.
Bah, ça arrive. À 3 euros. Hein. Ouais. 3 euros la défense, tu vas avoir. Wari est avec les GG. Bonjour Wari.
Bonjour les GG.
Wari, du côté de la Seine-Saint-Denis, quand vous voyez ce qui se passe, ce que nous a dit Cédric, ce qui se passe à Nîmes, comment vous réagissez? Dites-moi.
Ben nous, on vit ça depuis des années, depuis des décennies. On est en train de crier tous les ministres de l'Intérieur depuis des décennies. Il n'y a aucune politique pour régler ces problèmes de drogue. Il n'y a aucune politique nationale. Des fois, nous mettons un petit pansement, nous envoyons le CRS. Les CRS, ils sont là, ils ne bougent pas, donc ils ne font rien. Nous, on manque cruellement de policiers. On a 200 policiers au commissariat de Saint-Denis. Nous sommes une ville de 120 000 habitants. Nous avons grosso modo 100 000 personnes qui arrivent en plus chaque jour, entre les universités, les transports. Nous avons 200 policiers, nous en avons besoin de 400 à 500. Donc il nous en manque 300. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Oui, mais vous savez, vous en avez assez quand on compare. Mais non, nous sommes une ville avec des problèmes. Nous avons des problèmes sociaux, nous avons des problèmes économiques, nous avons des problèmes de délinquance. Donc parfois il faut moins de policiers dans certains endroits, parfois il en faut plus. Donc on ne cherche pas à résoudre ce problème-là. Et nous, Saint-Denis, nous sommes vraiment un laboratoire. Nous pouvons régler tous les problèmes de France en réglant les problèmes de Seine-Saint-Denis. Je pense qu'au niveau national, tant que le gouvernement ne prendra pas les mesures répressives, je ne parle pas des mesures sociales, tout ce qui est en amont, mais à la fin, tout ce qui est à la fin, répressives ou éducatives, donc plus de policiers, plus de juges, plus de greffiers, etc., 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 on ne réglera jamais ce problème. C'est un problème de fric.
Oui, mais Wari, vous avez raison, c'est vrai, mais imaginez... on passe par l'étape de la répression pour après pouvoir gérer sereinement les questions sociales, d'éducation, territoriale, etc. Vous imaginez une période répressive en Seine-Saint-Denis? Mais vent debout, on aurait l'extrême gauche vent debout, c'est honteux.
Politiquement, c'est pas payant.
Politiquement, ça.
Politiquement, il y a trop de risques à prendre.
Risque
effectivement d'avoir des émeutes.
Mais bien sûr.
Pour un gain, t'es pas sûr que ça fonctionne.
Et puis on a l'opposition qui créerait la stigmatisation.
On lui dira c'est un scandale. Donc moi, je pense que politiquement, il préfère ne pas bouger.
Depuis des années, j'ai une responsable politique.
Il y a que les habitants qui peuvent le demander.
Peut-être qu'on en serait pas là.
Je suis choqué par ce que vous dites là.
Non, mais Wari.
Mélenchon et Corbière et tous les LFI ou tous les disent on n'est pas content, alors il faut rien faire.
Voilà, c'est non, je suis d'accord avec vous, ça, je suis d'accord avec vous.
Ces gens-là, ils ont été dangereux parce qu'ils ont pris des postures politiques depuis des années.
Non, mais je suis d'accord avec Owari, il a raison.
Non, mais pardon, Owari, je ne ciblais pas forcément Mélenchon. Je pense que pour Emmanuel Macron, c'est pas politique électoralement, c'est pas payant pour Emmanuel Macron.
Oui, mais pour que ce soit.
Owari, continue, allez-y.
Pour que ce soit payant, Owari, il faudrait que les habitants, justement, se mobilisent.
Parce que moi, je viens à Saint-Denis, je vous parle des véritables problèmes. J'ai 50 ans, ça fait 50 ans que je suis à Saint-Denis. Nous avons en ce moment, entre guillemets, excusez-moi, c'est péjoratif le mot, tous les clandos qui viennent et ils vendent les pilules. Les pilules à 1 euro, 2 euros, ce qu'ils appellent ça. La joyeuse ou le fusil. C'est-à-dire que vous prenez la pilule, vous décollez. D'accord ? Ils vendent ça à 1, 2 euros. Nous avons les problèmes de drogue. Nous en avons partout. Vous parlez du point de deal à Nîmes. Nous en avons peut-être 50, 100 à Saint-Denis. Nous, on subit les violences, les agressions, les viols. Là, il y a eu encore une arrestation. Là, il y a eu un kilo d'héroïne qui a été saisi il y a un mois, il y a une journée. Vous nous parlez de Macron, de Mélenchon, mais nous, vous nous oubliez les 120 000 habitants.
C'est vrai, c'est à vous de. Non, mais c'est vrai, vous avez raison.
Comme il est dit, en fin de compte, on prend les problèmes séparément. Je pense que le problème de la drogue, c'est lié aussi en partie au problème de l'immigration, au problème de plein de choses. Et on dissocie toutes les étapes. Et quand tu regardes dans certaines régions de France, notamment en Île-de-France, t'as des tribunaux qui sont engorgés à plus de 60% juste pour défendre le droit des étrangers. Comment tu veux que les dossiers avancent? Donc il y a un moment, il faut. C'est un ensemble. Tu peux pas prendre le problème de la drogue, l'autre à côté, l'autre à côté.
C'est ce que j'ai dit, moi. J'ai dit, on retire tout ce qui est tout ce qui est en amont. Etc. Là, on parle que du côté répressif. Je ne parle pas des tribunaux surchargés. Je ne parle pas de.
Bah oui, mais ça aide. C'est si on peut pas juger les gens.
C'est un ensemble. Ça, je sais que c'est un ensemble. Là, j'ai parlé juste d'une partie.
Mais vous avez dit quelque chose d'important, Owari. Il a dit un truc important. Il a dit, mais nous, les habitants, qui pensent à nous? Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on dénonce ce que peuvent vivre les habitants en insécurité, quand la gauche, il a fallu qu'elle parle de la sécurité des habitants des quartiers populaires, en fait, c'était un tabou. Il fallait pas dire que dans ces quartiers-là, mais pourtant, il y a 90% d'honnêtes gens qui ont envie de travailler, qui ont envie qui ont besoin de sécurité.
Attends, quand même, si en amont, il y a une présence de l'État visible, je pense que l'économie informelle se développe beaucoup plus difficilement.
Merci Owari de ce témoignage en direct de Saint-Denis, mon cher Owari. Bon. Merci d'avoir été avec nous. On aura l'occasion de reprendre la discussion, j'en suis sûr. Alors, les dealers font-ils aussi la loi dans les villes moyennes? Quel est votre sentiment là? Comment vous réagissez?
Oui. Oh là là,
c'est
90%.
Un oui à 90% pour ceux qui nous ont suivis, qui ont écouté notre discussion.